Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui, pour l'émission Le temps d'une cathédrale, nous retrouvons Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Pour continuer la visite guidée de la cathédrale, alors cette fois-ci à travers les chapelles. Et nous avons terminé la semaine dernière par la chapelle de Saint-Jean-Gabriel-Père-Boire et nous continuons à la gauche de cette chapelle, nous avons la chapelle Jeanne d'Arc. Alors, Marie-Madeleine, en étant devant cette chapelle, je vois tout de suite un monument aux morts.
Eh oui. Pourquoi ? Deux choses. Jeanne d'Arc est une des patronnes de la France.
Absolument.
On dit patronne secondaire, j'y reviendrai peut-être. Voilà. Et ensuite, parce que Jeanne d'Arc a été canonisée en 1920, ou 22, et en 1922, oui, et donc ce monument aux morts répertorie tous les morts pour la France de la guerre de 14-18 et a été sans doute installé dans les années 20 à la cathédrale de Cahors. Voilà. Donc Jeanne d'Arc.
Est-ce que on peut rappeler à nos auditeurs le personnage de Jeanne d'Arc?
Bien que ce soit quand même très connu, c'est une sainte quand même très très connue et vénérée, mais il faut dire aussi qu'elle n'est vénérée vraiment que depuis le 19e siècle. Ça paraît paradoxal, mais voilà. Elle a été quand même assez vite oubliée après sa mort, sous de nombreuses influences, donc on ne va pas y revenir. Mais donc Jeanne d'Arc, la vie de Jeanne d'Arc, née à Domrémy, tout le monde le sait, voilà, en 1412 probablement, et brûlée à Rouen en 1431, donc elle avait 19 ans. Voilà, donc à 13 ans, elle gardait sans doute ses moutons, mais ça aussi c'est hypothétique. Elle reçoit des voix, elle entend des voix et elle distingue nettement Saint-Michel, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine. Voilà. Et évidemment, quand elle le dit, elle est prise quand même un peu pour une illuminée, évidemment. Mais ces voix lui demandent de sauver la France et de faire couronner roi, enfin sacré roi, Charles VII, qui n'est que dauphin à l'époque. Voilà. Et comme on est en plein guerre de 100 ans, il faut qu'elle combatte les Anglais et qu'elle aide Charles VII à les chasser. Voilà. Donc elle va entreprendre tout ça elle va pendant 2 ans aux côtés de Charles VII, qui est un roi timide, qui est un roi faible, indécis. Et elle va le pousser à combattre les Anglais. Et paradoxalement, il va dire oui. Il va se laisser faire, heureusement. Voilà. Puisque le siège d'Orléans se passe, et se passe bien, puisque les Anglais s'en vont. Alors, là aussi, les historiens contemporains disent que Jeanne d'Arc n'a pas combattu à ce siège, mais qu'elle se serait déguisée en paysanne avec une charrette, qu'elle serait rentrée dans Orléans pour prétexte d'un ravitaillement, et que à l'intérieur, elle aurait boosté, si on peut dire, l'esprit des soldats qui se trouvaient à l'intérieur pour qu'ils repoussent les Anglais. Voilà, c'est peut-être ce qui s'est passé. Voilà, mais tous les films et toutes les légendes qui se sont greffées autour la mettent en armure sur les murs d'Orléans, etc. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir.
Alors, le monument aux morts, nous venons d'en parler, nous venons de dire quelques mots sur Jeanne d'Arc.
Oui, et puis sa fin tragique, bien sûr.
Et sa fin tragique,
voilà,
brûlée
à Rouen, parce que le contexte historique le veut que, en plus de la guerre de Cent Ans, il y ait deux clans autour du fief français, du fief de France, parce que le fief de France est petit à cette époque-là. Le roi de France ne règne que sur quelques provinces. Il y a évidemment la bataille entre les Armagnacs et les Bourguignons. Les Armagnacs qui sont pro-roi, pro-Charles VII, avec Jeanne d'Arc, qui vont soutenir Jeanne d'Arc, mais contre les Bourguignons, qui est un peu, à ce moment-là, l'éternel ennemi hein, du roi. Mmh. Et du roi de France. Donc ce sont les Bourguignons qui vont la capturer et qui vont la vendre aux Anglais. Mmh. Voilà. D'accord. Et à la fin, vous la connaissez, avec l'évêque Cochon, qui va s'en donner à cœur joie pour la condamner. Voilà.
Donc vous avez précisé tout à l'heure qu'elle était née à Domrémy.
Oui.
Et Domrémy est un très joli petit village.
Oui, en Lorraine.
En Lorraine, oui. Que j'ai personnellement visité. Et c'est vrai que il reste cette maison, cette petite maison mm-hmm. en pierre de où là où est née Jeanne d'Arc, où a vécu la famille de Jeanne d'Arc.
Voilà, elle avait deux frères et une sœur, je crois. Voilà.
Donc, en dehors de Jeanne d'Arc, il y a un autre personnage que nous apercevons.
Oui, dans cette chapelle.
Dans cette chapelle. Et vous allez me dire, mais c'est qui? Mais c'est lui.
Et oui, on le retrouve un peu partout dans la cathédrale.
Et oui, et oui.
Non seulement en gisant comme dans cette chapelle, mais aussi par ses œuvres.
Mmh, hein? Absolument.
Le cœur restauré, c'est Pierre-Alfred Grimardias, évêque de Cahors.
Voilà. Donc c'est un très beau gisant.
Très beau gisant. Très beau gisant, en bon état. En très bon état, il est d'ailleurs signé Rouget. Je n'ai pas trouvé trace de ce sculpteur, d'ailleurs, si quelqu'un peut me donner des explications. Mais surtout, la facture de ce gisant est très belle, parce que il y a des détails dans le vêtement, dans la chasuble de l'évêque, avec des galons. Ensuite, donc il est allongé, bien sûr, hein. Il est allongé. Sa tête repose sur deux coussins. Il est mitré. Autour du cou, il porte une croix tréflée, c'est-à-dire que les bouts sont à trois lobes, et autour d'une cordelière, pendue par une cordelière, toute simple.
Ce qui me frappe, ce sont les détails au niveau de ses mains. Porterait-il des gants?
Oui, il porte des gants très fins, manifestement, avec un joli petit décor sur le dos de la main. Et là aussi, on peut remarquer les manches de son surplis hein, en dentelle. C'est très fin, c'est très très joliment exécuté et sculpté.
Et voilà. On peut apercevoir peut-être les armoiries.
Oui, il repose sur un coussin qui porte un écu éclaté, hein, comme on dit, et qui porte donc les armes de l'évêque Grimardias. En héraldique, on le décrit de cette façon, deux gueules à trois cornets d'argent et une étoile du même en abîme. Alors, c'est très hermétique, l'héraldique est une science très hermétique. Alors, je traduis, deux gueules, c'est rouge, c'est donc un fond rouge à trois cornets d'argent, donc ce sont trois petits corps de chasse en argent, et une étoile du même, donc en argent, qui est au centre, et qu'on qualifie en héraldique en abîme, ça veut dire au milieu d'un autre décor. Voilà. Et comment voit-on sur la pierre ou sur le marbre que l'écu a un fond rouge? C'est parce qu'il est strié verticalement,
oui,
finement, et on traduit cela en héraldique par le rouge.
D'accord.
Quand on a un dessin en noir et blanc, par
précision
exemple.
Très importante, voilà. Effectivement.
Et argent, c'est uni. Alors, et ensuite, il y a aussi
une médaille.
Eh oui, c'est la Légion d'honneur. C'est la Légion d'honneur qu'il a reçue en mars 1862. Voilà.
Effectivement.
Et donc, le 9 juillet 1862, décidément. Voilà. D'accord. En juillet 1862. Donc voilà le portrait, un très beau portrait, le visage est superbe, hein, il est très beau, très très beau, et on voit que c'était un homme de caractère.
Très juste, et c'est vrai que ce gisant est resté en état magnifique.
Oui.
Alors, en corrélation avec ce gisant, nous apercevons sur la clé de voûte, en levant la tête, une main.
Oui, alors la clé de voûte qui se trouve à la croisée d'ogives. Eh bien, une main, une main droite, qui est la main de Dieu, tout simplement. C'est la main de Dieu qui bénit le monde et qui bénit tous les gens qui vont passer dans cette chapelle. Voilà. C'est un ornement classique, mm-hmm. hein, dans les clés de voûte.
Je pense que dans cette chapelle, nous avons vu l'essentiel.
Alors, on peut revenir sur le monument aux morts,
oui,
pour juste une précision.
Pour le nombre de
voilà,
morts.
Donc c'est bien, mm-hmm. c'est bien la guerre de 14, 14-18. Et j'ai compté à peu près, en gros, au moins 150 personnes. Au moins 150 morts, dont beaucoup devaient être frères ou père et fils, parce que il y a des noms qui se répètent, avec des prénoms différents. Voilà.
Très bien. Mais écoutez, nous allons sortir de cette chapelle pour nous diriger sous les deux chapelles qui sont sous l'orgue. Donc, lorsque nous sommes face à l'orgue, nous avons deux chapelles, à droite Saint-Jean-Baptiste et à gauche chapelle de la Pietà. Mais nous passons devant la sortie du portail nord pour aller nous rendre aux escaliers qui montent sous l'orgue, et nous passons à notre gauche devant un baptistère en marbre, Marie-Madeleine. Est-ce que vous
oui.
pouvez nous en dire juste quelques
mots?
Oui,
un bénitier en marbre,
oui.
Qui est 18e. Il doit dater des années 1730 environ, puisque il a été mis en place en même temps que la tribune et que la chaire, et aussi en même temps que les balustrades qui clôturent les entrées des deux chapelles dont nous allons parler maintenant, mmh. La chapelle de Saint-Jean-Baptiste et la chapelle de la Pietà.
Voilà, donc nous montons les escaliers et nous trouvons sur notre droite la chapelle Saint-Jean-Baptiste.
Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi Saint-Jean-Baptiste ? Tout simplement parce que c'est la chapelle des fonts baptismaux.
Voilà. Très beau d'ailleurs, magnifique fonds baptismaux.
Oui, mais qu'on ne voit pas forcément.
Non, au premier abord,
voilà.
Effectivement.
Alors cette chapelle donc date normalement de la fin du XIIIe, parce que assez récemment, on s'est rendu compte que ce massif ouest doit dater d'un peu avant les dates que l'on proposait auparavant. C'est-à-dire, on a dû commencer la construction du massif ouest dans les années 1250. Mais c'est l'évêque Raymond de Cornille, qui a été évêque pendant 13 ans, entre 1280 et 1293, qui a vraiment lancé le chantier et conforté le chantier. Raymond de Cornille en a parlé dans la chapelle Saint-Jean-Gabriel-Perboire, où on avait son gisant sans tête. Mmh. Voilà. Donc, c'est lui qui édifie le massif ouest et qui pose ces deux chapelles de part et d'autre, l'une au nord, l'autre au sud. Et celle du nord, c'est celle de Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Alors, en entrant dans cette chapelle Saint-Jean-Baptiste, on voit un grand rétable teinté vert foncé en bois, hein, et sculpté en relief de chutes de fruits et de feuilles, voilà, et deux têtes d'angelots, du Saint-Esprit tout à fait en haut, tout à fait dans la tradition du XVIe, XVIIe siècle, hein, voilà. Et puis trois statues, un évêque au centre, et une sainte à gauche et un saint à droite.
Effectivement, ça paraît très sombre d'ailleurs. Quand
c'est très sombre. Hein,
ça
c'est très
sombre.
C'est quand même éclairé par une fenêtre donnant sur la place du marché, et sur une fenêtre à contre-jour. Donc, quand on regarde ce rétable qui donne sur la rue Foch, derrière au nord. Alors, de remarquable encore ici, il y a un tableau du XVIIe.
Oui, qui est à la droite.
Qui représente.
Des trois personnages.
Voilà, qui représente Sainte Anne enseignant
à Marie.
La petite Marie. Hein, voilà. Alors, évidemment, il n'a rien à voir avec le thème de la chapelle, mais il est là. Il est très sympathique. Il est gentil, je dirais. Hein, voilà. Et. Ça représente l'amour qu'avait Anne pour Marie, et Marie qui se laisse instruire, hein, voilà.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous disiez que Cette peinture, ce tableau semble fort sympathique. Effectivement, il a des rondeurs et une peinture, tout au moins une main très 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 agréable.
Oui,
Voilà,
oui, oui,
à
oui,
l'œil, c'est très agréable.
oui. Oui. Voilà. Avec une petite perspective de paysage et un arbre, voilà, qui est peut-être le symbole de la croix du Christ. Alors ensuite, nous avons deux placards de part et d'autre
Voilà,
de ce rétable.
dont chacun la
Voilà.
porte est ouverte,
Oui,
ou pour
enfin,
chacun la porte
oui.
est ouverte.
Voilà, on peut les ouvrir en tout cas si elles sont
Voilà.
fermées. À droite, il n'y a rien, donc il n'y a rien à voir. À gauche, ce sont les fameux fonts baptismaux. Et dans ces fonts baptismaux, eh bien, on trouve une très belle coquille en marbre rouge, tout à fait baroque. Et puisque la coquille était un élément ornemental de l'art baroque, et elle est très belle à nervure. Elle est un tout petit peu abîmée, elle est un peu écaillée, mais ça veut dire qu'elle a servi. Et elle a servi, elle était pleine d'eau, évidemment, pour baptiser. Voilà, pour les baptêmes.
Marie-Madeleine, je vous pose une question, peut-être une question bête, mais je la pose quand même. Est-ce que ces fonts baptismaux tels qu'ils sont dans cette chapelle Saint-Jean-Baptiste, est-ce qu'on en trouve beaucoup comme ça dans les églises, de cette facture ou pas?
Alors, bonne question. À l'origine de l'Église, le baptême se faisait à l'extérieur de l'édifice Église. Pourquoi? Parce que le catéchumène n'était pas encore baptisé, donc il n'avait pas en principe le droit de rentrer dans l'Église. Donc on le baptisait à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans les églises romanes ou même avant, pré-romanes, eh bien, on trouve des baptistères à l'extérieur.
Oui, c'est pour ça qu'on disait que
Là,
les
par
catéchumènes
contre,
rentraient,
oui,
les non-baptisés rentraient dans le narthex, mais n'allaient
c'est
pas plus
ça,
loin
c'est ça.
que le narthex.
Et donc c'est pour ça que cette chapelle se trouve dans ce qu'on peut appeler le narthex maintenant, ce massif ouest. Et c'est symbolique, c'est symbolique. C'est vraiment l'entrée du catéchumène qui va se faire baptiser et qui alors pourra rentrer pleinement dans l'Église, hein. Et au sens figuré du terme, mais au sens concret du terme aussi. C'est-à-dire, il rentre dans l'Église avec un grand E, l'Église, l'ensemble des chrétiens, mais également dans l'Église petit E, édifice. Voilà. Et alors, vraiment, cette coquille est superbe. Moi, je la trouve très, très belle.
Mais vous avez raison, tout à fait.
Elle est
Marie-Madeleine,
pleine.
vous avez parfaitement raison.
Voilà.
Et donc, est-ce qu'on en trouve dans d'autres églises de cette
Certainement,
facture?
certainement. Je connais un baptistère, mais c'est pas une coquille. Mais le baptistère qui est aussi au début de l'église, à la cathédrale de Lombès, par exemple. Il y a une chapelle du baptistère dans laquelle on descend pour se trouver devant un très beau baptistère, mais plus bénitier que baptistère, et qui est symbolique là aussi, hein. Mais dans d'autres églises, il doit y avoir des coquilles, bien sûr, mais je ne les connais pas. Voilà.
Très bien, merci Marie-Madeleine pour cet éclairage. Alors nous levons la tête et nous apercevons
La voûte.
la voûte. Et sur cette voûte, il y a quelques peintures.
Voilà, des peintures donc qui sont 17-18e, qui sont baroques. À la croisée d'ogives, nous avons quatre panneaux qui représentent tout à fait des sujets très baroques, des petits angelots, des têtes d'angelots ailées, des angelots entiers, si j'ose dire, et puis ces formes de cœurs entourés de volutes, de feuilles d'acanthe et divers éléments tout à fait baroques. Et la clé de voûte, c'est la tête de Dieu dans des feuillages, qui sortent de feuillages, qui sortent de feuillages,
On
pardon. Oui,
l'aperçoit.
c'est pas
Il faut le
très,
deviner.
oui, il
Voilà,
faut
on
le
lui
deviner.
remercie en tous
Et
les cas
alors
de nous donner cette explication.
sur le mur est, il y a un superbe Dieu le Père, peint à même le mur, hein, voilà, et entouré de deux petits anges. C'est le maître du monde parce qu'il y a le monde qui est posé sur un rocher à ses côtés. Il est drapé, son torse est nu, on voit un pied qui sort du drapé, et il est barbu, tel qu'on se le représente, Dieu le Père. Voilà,
Oui,
c'est un bon Dieu
tout
le
à
Père.
fait.
Voilà.
Alors, donc, elle est ornée de peintures
Oui, de peinture.
murales
Il y
et
a des
notamment dans la
restes,
voûte.
voilà, dans la voûte. Et puis sur les côtés, donc sur le côté du
Voilà.
rétable à gauche, il y a encore des traces de peinture. Ça devait être tout peint, ça devait être magnifique, hein.
Est-ce qu'elle a été restaurée, cette chapelle,
Plus ou
dernièrement
plus, non, pas
ou...
dernièrement, non, pas dernièrement.
D'accord.
Voilà.
Alors, nous allons sortir de cette chapelle pour aller en face à la chapelle dite de la
De
Pietà.
la Pietà, voilà.
Voilà. Alors, nous entrons dans
Voilà
cette
qui est.
chapelle qui est un petit peu foncée
Alors
aussi,
c'est
hein.
au sud donc du massif ouest, hein, côté sud. Alors cette chapelle, c'est vrai qu'elle n'est pas souvent éclairée et qu'il faut la voir par beau temps.
C'est
Et
chose
oui,
parce qu'il y a un
si.
très beau vitrail
Voilà, oui.
et c'est ce vitrail
Donc, alors
effectivement
on va en parler.
qui fait que nous
Donc
pouvons mieux la voir ou pas.
cette chapelle donc est dédiée à la Pietà. Puisque nous voyons une statue en face de nous, au-dessus de l'autel, une statue qui représente Marie, éplorée, tenant son fils mort, Jésus, à la descente de croix. Voilà, donc une
Effectivement.
Pietà, c'est cette définition-là de la Mater Dolorosa, hein, de la mère douloureuse, qui porte son fils ensanglanté à la descente de croix. Voilà. Donc c'est un très beau rétable, toujours 17e, 18e, et dans le centre, enfin, dans le centre porte une niche où se trouve la Pietà, avec une belle coquille stylisée au-dessus, qui sert de voûte un peu à ces deux personnages, et entourée de deux autres personnages en bois doré. L'un, un homme à gauche, et à droite, une sainte. Et cette sainte, elle tient dans sa main droite, dans sa main gauche, pardon, à droite pour nous, un
Oui.
cœur enflammé. Eh bien, il s'agit de Sainte Marie Marguerite à la coque, qui a diffusé au XVIIe siècle, qui a inspiré au XVIIe siècle le culte du Sacré-Cœur de Jésus.
Voilà l'explication.
Voilà. Et à gauche, c'est un autre saint qui a été son confesseur et qui a abondé dans le sens du Sacré-Cœur et qui a instauré cette institution du Sacré-Cœur. C'est Claude de la Colombière, qui était un jésuite, qui était un jésuite, donc directeur spirituel, en particulier de Marguerite Marie. Et il a fait des écrits, etc., qui encouragent la dévotion au cœur de Jésus. Voilà. Donc lui a été béatifié en 1929 par le pape Pie XI et canonisé le 31 mai 1992 par le pape Jean-Paul II.
On peut dire
C'est très
récemment,
récent,
voilà.
c'est très récent. Et Marguerite Marie a été béatifiée en 1864. Et canonisée en 1920. Alors Marguerite Marie, donc elle était, c'est son nom de religion, Sœur Marguerite Marie. Elle s'appelait Marguerite à la coque, non. Elle est née le 22 juillet, puisque c'est la Sainte Marguerite, 1647, en Bourgogne, et elle est morte en 1690 à Paray-le-Monial. Voilà. Et elle était religieuse de l'ordre de la Visitation. Et c'est elle donc qui a été inspiratrice du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà.
Très bien. Merci Marie-Madeleine pour cette nouvelle émission autour des chapelles. Nous terminerons la chapelle de la Pietà la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci Marie-Madeleine.
Avec plaisir, à
Et je
bientôt.
vous dis à la semaine prochaine. Nous avons hâte de reprendre et de retrouver cette chapelle de la Pietà. Au revoir à tous.